Alors aujourd'hui, à l'émission Rêver pour moi, j'accueille Christian Saint-Germain. Christian Saint-Germain a écrit un livre qui s'intitule Mélancolie Inc., INK, qui vient d'être publié chez Bayard en 2007. Quand je t'ai invité, Christian, tu semblais très réticent à venir parce que tu m'as vraiment fait comprendre que tu ne rêvais pas, que tu n'avais guère envie de parler de tes rêves et que il semblait que mon invitation ressemblait à celle que je pourrais faire à un végétarien dans un steakhouse et que tu n'avais rien à faire là. Néanmoins, en lisant ton livre, après avoir discuté avec toi, nous avons vu qu'il était pas mal question de rêve. Alors peut-être que ma première question portera sur les liens entre la mélancolie et le rêve, puisque ton livre porte sur la mélancolie. Quel lien établirais-tu entre la mélancolie et le rêve? Est-ce que le mélancolique aime rêver ou au contraire rêve-t-il d'une anesthésie de la nuit?
Ben en fait, d'abord, je suis toujours heureux de participer à toute espèce de promotion de l'écriture québécoise et du travail qui se fait ici. Il y a si peu de lieux, il faut bien dire, où on accueille des gens qui publient des livres au Québec. En général, on est tout de suite tourné vers les productions extérieures. Enfin, il suffit qu'un écrivain français passe à Montréal pour qu'on se précipite sur lui comme la dernière fournée de je ne sais trop quoi, des caisses de Beaujolais nouveau. Enfin, il y a cette espèce d'engouement colonial pour ce qui vient d'ailleurs, ce qui fait le charme de la situation des lettres québécoises, en fait. Mais pour revenir à ta question, hormis ma bonne humeur proverbiale, il me semble que le mélancolique rêve peu. Enfin, je ne veux pas parler au nom de tous les mélancoliques. D'ailleurs, mon livre s'appelle Mélancolie Inc. Enfin, c'est de l'encre de la mélancolie. Qu'il s'agit. Le mélancolique rêve peu parce que il cherche davantage le sommeil, comme tu le disais dans ta question, l'anesthésie générale, la profondeur d'une nuit sans bord. Et enfin, c'est plutôt cela qui l'intéresse, étant entendu que l'apparition en rêve de la réalité du rêve, qui est toujours plus réel que le réel lui-même, c'est ce qui est pour lui le plus terrifiant, en fait. C'est pour ça que je pense que le mélancolique ne poursuit pas, n'a pas une vision idyllique du rêve.
Enfin, je voulais juste raconter peut-être une anecdote, mais peu avant mon accouchement, comme j'avais un peu peur de ce qui allait se passer, j'ai rêvé de toi et c'était toi qui me. Nous prenions tous les deux un grand bateau pour traverser l'océan, mais tu savais comment faire pour que je n'aie pas mal au cœur pendant cette traversée. Tu savais donc faire en sorte que mon rêve soit bon. Donc, je crois que j'avais bien compris ton désir de faire en sorte que soit le rêve soit très calme, soit qu'il disparaisse, ou en tout cas, ou au moins qu'il nous aide à en faire moins, hein, qu'il nous prive du cauchemar. Alors j'en arrive peut-être tout de suite à cette idée du cauchemar, parce que dans ton texte, il y a des passages très angoissants sur la possibilité du cauchemar, et particulièrement le cauchemar d'enfant. Hein, c'est-à-dire, il y a une scène où on entend le père entendre le cri de l'enfant qui fait un cauchemar. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rôle de témoin du rêve des autres pour celui qui ne rêve pas?
Mais en fait, c'est une expérience tout à fait personnelle. C'est en fait, alors que j'ai le sommeil assez léger, il faut dire que ma thèse doctorat portait sur l'insomnie, donc ça préfigurait en quelque sorte mon rapport au sommeil et au rêve. C'est l'expérience assez commune, en fait, des parents qui surprennent le premier rêve de leur enfant, ou le premier cauchemar de l'enfant, qui pousse un cri dans la nuit, et la consistance de cette voix. De cette voix d'enfant dans la nuit a quelque chose de vraiment terrifiant, parce que elle implique une telle réalité. Elle implique, bien que l'enfant retombe en sommeil immédiatement, cela, je me souviens de m'être redressé dans mon lit comme si c'était moi qui faisais le rêve, donc avec aussi le souvenir de cette voix en tête. Enfin, comme si dans cette voix, quelque chose se vivait à travers l'enfant, qui faisait en sorte que bien que je me sache appelé à mourir, cette voix m'empêcherait de mourir d'une certaine manière. C'est-à-dire que cette voix me barrait l'accès à ma propre mort, puisque dans cette voix j'entendais ma responsabilité infinie à l'égard de cet enfant.
Est-ce que le mélancolique et quelqu'un qui est proche de l'enfance. En fait, ton livre portera à le croire parce qu'il y a tout un travail sur l'enfance à travers le texte, c'est-à-dire à la fois une fascination pour l'enfance et une espèce de répulsion. Est-ce que le mélancolique, on pourrait dire que c'est celui qui n'a jamais fait le deuil de l'enfance et puis qui rêve de le faire, ce deuil-là?
Ben, en fait, il faut situer le mélancolique, ce livre, par rapport au livre précédent qui était Éthique à giroflée, qui est paru justement dans Les Nouveaux Essais Spirales, qui était en fait le récit, donc, le récit de mon accession, si j'ose dire, à la paternité. Donc, c'est assez rare que les pères écrivent sur ces événements-là. Et donc, dans Mélancolie, ce qui est ajouté d'une certaine manière à Éthique à giroflée, c'est une perspective beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus radicale, dans la mesure où, alors que Éthique à giroflée s'adressait à ma fille, avait une portée testamentaire, joyeuse, une prescription, en fait. C'était vraiment une éthique au sens où le père raconte à sa fille la somme temporaire de ses expériences, la met en garde contre un certain nombre de choses, donc une véritable éthique, d'une certaine manière, au sens biblique, là, des livres de sagesse, enfin, aussi amusant que ça puisse, je dis d'une manière, évidemment, d'une manière loufoque, parce que je ne prétends pas avoir écrit des livres de sagesse biblique, là, mais enfin, c'était dans cet horizon stylistique-là, pour être plus clair. Et Mélancolie, elle se situe directement dans la terreur d'avoir commis un acte irréparable, d'une certaine manière, c'est-à-dire d'engager un innocent dans le monde, alors que soi-même, on y éprouve un certain nombre de réticences, de difficultés. Enfin, c'est de ce côté-là que se situe la partie paternelle de Mélancolie, si je veux dire. Elle ne pouvait pas se joindre, elle n'était pas naturellement, elle ne pouvait pas être inclue dans l'éthique à giroflée.
Mais si Éthique à giroflée était un texte d'une certaine façon dédié à ta fille, je trouve que ce texte-là, Mélancolie Inc., bien que c'est vrai qu'il y a toute une réflexion sur la paternité qui continue, mais néanmoins pour moi ce texte, il est dédié à tes parents. C'est-à-dire qu'il y a à travers tout le texte ton rapport à tes parents. Tu racontes ce que le mélancolique vit face à sa mère. Et c'est là que l'enfance se joue, c'est-à-dire c'est là que je pourrais lier l'enfance de ta fille avec l'enfance du narrateur ou l'enfance de la petite fille et l'enfance du narrateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est avoir des parents qui sont des parents merveilleux dont on ne pourra jamais faire le deuil? Et
Donc, ils nous conduisent à la mélancolie,
tout à
nécessairement.
fait. Et puis en même temps, ben est-ce qu'en tant que père, on n'a pas envie d'être ce parent merveilleux? Qu'est-ce qu'on veut être? Est-ce qu'on veut déjà lui faire faire le deuil à l'enfant d'enfance? Tu vois, il y a toute ce paradoxe qui travaille, mais peut-être me parler de la place des parents dans la mélancolie.
Il est certain que la situation de paternité, le passage au statut parental, force un certain nombre de réaménagements psychiques chez les individus qui sont plus ou moins bien vécus. En fait, la mélancolie est souvent une humeur héritée des parents, justement, d'une mère enfant qui a aimé beaucoup sa propre enfance et qui vous expose continuellement son propre rapport idyllique à l'enfance, de sorte que il y a quelque chose qui se télescope, si j'ose dire, dans cette situation psychologique-là. C'est-à-dire avoir eu des parents qui ont aimé beaucoup leur enfance, qui ont eu une enfance heureuse, dorée, se retrouver l'enfant de ces mêmes parents-là implique que nécessairement vous soyez tourné d'une certaine manière vers le passé plutôt que très joyeux quant à l'avenir. C'est-à-dire que la mélancolie, c'est le refus de perdre le moment dans lequel on se trouve. C'est de dire ce moment-ci est si beau, enfin, pour reprendre la formule faustienne, il faut que cet instant s'arrête. Et donc, toute espèce de croissance, de progression, d'entrée dans l'âge adulte est toujours vécue comme une perte plutôt que comme un accroissement ou un épanouissement ou quelque imaginaire là, de, j'allais dire, de, épanouissant, en fait.
Mais la mère semble très présente chez le mélancolique, en fait, comme tu le montres dans ton texte, c'est-à-dire la mère semble être ce qui est perdu pour le mélancolique, irrémédiablement
Oui, mais
perdu.
la mère, parce que ce qui est perdu, ce qui se joue dans la transaction, si j'ose dire, c'est le fait que peu de mères qui ont été des enfants heureux, préférés, accèdent au statut de mère avec un grand enthousiasme. C'est ça qui est, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, une mère mélancolique, c'est une mère qui se dit « je suis très heureux d'avoir eu mes enfants, mais ma propre, j'ai dû laisser derrière moi ma propre enfance où j'étais l'enfant merveilleux d'une famille nombreuse qui me choyait. Enfin, » c'est le cas pour ma mère qui était la, le dernier enfant d'une famille de 14. Alors, donc, elle avait un statut très particulier. De fait, je ne suis pas certain que ça... son entrée dans l'âge adulte a été vécue de manière aussi manière très heureuse.
J'aimerais quand même que tu nous lises le dernier fragment de ton livre qui porte justement sur la mère, parce que pour moi, tu vois, en te lisant tout le long, je me disais, mais ce livre, c'est sur sa mère. Ce livre, c'est sur sa mère. Bon, il y a beaucoup de sujets, tu abordes plein de sujets, tu as plein de fiels contre plein de gens, mais en même temps, il y a à travers toute cette hargne, il y a un rapport absolument merveilleux à la mère. Je me demande d'ailleurs si une fille peut avoir le même rapport à sa mère que celui que tu décris dans ton livre. Mais j'aimerais que tu lises ça parce qu'à la fin, au dernier fragment, je me suis dit « Ah mais oui, c'est ça, c'est bien ça ». Alors tu vas nous lire le dernier fragment de ton livre.
Il faut faire attention parce que le livre parle à la première personne et à la troisième personne, donc il y a quand même une alternance.
Entre... Bien sûr, ce n'est pas toujours toi,
non,
on avait
c'est
compris.
Pas toujours vrai. C'est, tout n'est pas tout vrai dans
mais
ce
bien
livre-là.
Sûr, mais bien sûr, bien sûr.
Alors, le dernier fragment, c'est comme suit. Alors, il a cherché refuge dans le Bouddha. En quittant le bel appartement new-yorkais, il amenait sur le banc de parc une couverture de son enfance. Bouleversé par le passage peut-être authentique de la prédication de l'illuminé, chaque personne que vous voyez a été votre mère dans une autre vie. Cette parole lui transperçait le cœur, car aucune mère n'aurait pu être comme la sienne. Son drame était autre. Aucune forme après sa mère n'avait pu le consoler de devoir continuer à vivre.
Voilà, j'ai trouvé la fin particulièrement émouvante, mais ce...
Parce que la mélancolie, c'est toujours l'obligation qu'a le mélancolique de continuer à vivre. Enfin, tout se joue dans le devoir vivre, là, qui est pesant.
Pesant, honteux ou seulement pesant?
Ben, pesant et honteux. Pesant parce qu'honteux, à vrai dire.
Honteux de survivre à ses parents?
Honteux de survivre à ses parents, c'est ça. D'avoir dû, ou de devoir, dans mon cas, si j'ose dire, c'est d'avoir des enfants sans avoir pu montrer à mes parents l'enfant merveilleux qui est ma fille. En fait, il y a de ça aussi. Là. Survivre pour soi-même et puis être placé devant... cette absence abyssale, d'une certaine façon.
Est-ce qu'on en parle de ses parents à sa fille? Est-ce que tu en parles?
On peut en parler, mais quand elle est très jeune, elle ne peut pas imaginer où sont ses... Enfin, c'est très typique des familles minimalistes de la modernité, c'est-à-dire que... on a très peu de repères... quant à ses ancêtres, si j'ose dire.
Mais dans la parole des parents, dans la parole de nos parents, on peut trouver ces repères-là.
Oui, on peut. Mais pour un enfant jeune, ça veut dire que les grands-parents sont au ciel. Enfin, ça veut dire rien dire d'autre que ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour
mais tu ne racontes pas ce que tu as vécu avec tes parents, par exemple. Tu n'es pas en train de te mettre en scène ou dans des histoires où tu dis « quand j'étais petit, je faisais ça avec ma mère » ou... Le mélancolique est secret ou il est bavard avec sa fille?
Ben, il est secret, à vrai dire, parce qu'il ne veut pas transférer, en tout cas, ses propres réticences. Là. Il veut pas. Il est très content d'avoir une femme qui est bien différente de lui, pour ne rien cacher.
Donc, il n'y a pas dans ton discours quotidien... remémoration.
Non, il n'y a pas de temple non plus aux ancêtres.
Non, je suis pas non mais sans que ça aille jusque-là. Donc ce n'est pas un discours du ressassement.
Non, 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 non. C'est un discours. Il y a du non-dit. Hein. Il y a du silence.
Oui. Beaucoup de non-dits, c'est sûr. Et peut-être aussi le fragment fait cet effet de non-dit. C'est-à-dire que le fragment qui vient. Parce que ton livre est un ensemble de fragments. Je le dis pour que tout le monde puisse comprendre, et le fragment venant toujours interrompre quelque chose, venant toujours apporter du silence, venant toujours...
Mais permettant la censure, c'est-à-dire
tout à fait.
Permettant l'exercice d'une censure brutale, un peu comme la mort subite,
oui.
le décès subi d'un parent, là, enfin.
Oui, nous nous étions dit aussi que le fragment représentait les ruines d'un discours inatteignable.
Oui, enfin, c'est le caractère, j'allais dire, c'est le caractère mégalomane du mélancolique, c'est l'inversion de sa détresse, et de se dire, à partir d'une ruine, plus personne ne peut m'atteindre, puisque c'est moi-même qui l'a produit, ou c'est moi, c'est de cela que j'émerge, donc je suis comme intouchable, si j'ose dire, à partir de ce lieu.
C'est-à-dire, j'occupe la place déjà de la dégradation.
Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est un lambris poli, si j'ose dire, poli, bien sûr, mais en ruine, c'est-à-dire tout le travail laborieux de l'argument, tout le travail de mise en forme, ou de ce que j'appelle vulgairement de stuffing d'un livre, est épargné au lecteur, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'il faut qu'en 8 lignes, ou en 8 ou à 12 lignes à peu près, on sache à quoi s'en tenir, il faut que l'image apparaisse. Il faut que l'événement ait lieu.
Le mélancolique dans ton cas est un impatient.
Est un exaspéré,
Un exaspéré, oui.
parce que l'idée de la continuité, l'idée de ce qui se développe au fil du livre m'a toujours rebuté, à vrai dire. J'ai jamais eu la patience de. Il faut aller au point, comme on dit en anglais. Enfin, il faut. Spill the bean.
Alors, pour aller au point, parlons de ta colère. Hein? Allons jusqu'au point. Allons-en jusqu'au point. Allons-y jusqu'au point. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu.
Mais
Il y a beaucoup
ça va jamais jusqu'au point, moi, ma colère, quand même. Ça reste dans
de.
l'écriture.
Oui, bien sûr, mais cette écriture qui est quand même assez punchée, c'est le cas de le dire. D'abord, tu as beaucoup de. Tu as beaucoup de. Comment dire de. Bon, j'allais pas dire. C'est pas toujours de la colère, des fois aussi, c'est une espèce. Tu disais exaspération, oui, agacement, et c'est très drôle, hein, ça peut devenir très drôle, ta façon d'être exaspéré. Alors, tu montres un certain nombre de tes agacements face à la psychanalyse, par exemple. Hein, et je vais. Parce que je vais réenchaîner sur le rêve, ce que tu racontes, en fait, c'est que tu trouves ça absolument ridicule d'aller en psychanalyse et de raconter ses rêves. Hein, déjà, en faire, tu veux pas, mais les raconter te semble l'entreprise la plus absurde qui soit.
Ben, enfin, j'aimerais tempérer un peu cette perspective, bien qu'elle soit exacte, qu'elle soit rigoureusement exacte. Mais en fait, ma résistance à l'analyse, qui est très. Les analystes diraient c'est une vraie résistance, mais en fait, tout ce qui n'est pas en accord avec eux devient une résistance, ça c'est un autre problème. Enfin, tiens au fait que j'aime beaucoup la théorie analytique pour l'avoir un peu pratiquée. Le texte psychanalytique, la mise en forme, les audaces que cela permet pour lire un livre, par exemple, ou pour comprendre un auteur. J'aime l'ouverture que cela permet, mais je n'ai aucune confiance dans le protocole analytique, c'est-à-dire dans le fait que quelqu'un se présente à l'heure fixe 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine avec une pile de billets, et en contrepartie de quoi, quelqu'un consent à l'entendre ou à l'écouter. Entendre, c'est beaucoup dire, on va tout le moins l'écouter. Donc, j'aime pas la scène, je la trouve odieuse, je trouve odieux que qu'un autre être humain demande à être payé pour en entendre. Je trouve que ça consacre en quelque sorte quelque chose de particulièrement absurde. Mais plus encore, ma conviction est d'un autre ordre, c'est-à-dire je pense que peu importe la nature du symptôme, le fait d'en connaître, d'en percevoir le sens, d'être devant un analyste brillant qui vous fait des liens avec votre très petite enfance, votre moyenne enfance, votre enfance actuelle, n'empêche pas ou ne rend pas inopérant la souffrance névrotique. C'est-à-dire que le cerveau n'est pas impressionné par les prouesses de l'analyste. Le cerveau est quelque chose qui sans doute jouit de la souffrance névrotique parce que c'est un circuit particulier. Et ma vision est assez objectivante et assez organiciste, si j'ose dire, par rapport à la réalité de la souffrance psychique. Autrement dit, je suis impressionné par les constructions analytiques que je trouve fort belles et dont je m'émeus, mais je ne crois pas qu'elles soient efficaces pour débarrasser quelqu'un d'une souffrance réelle, d'une souffrance psychique. C'est ça
Tu crois que le
ma
médicament
résistance.
serait plus efficace?
Ben, je crois que le médicament n'est pas non plus la panacée universelle au problème. Je pense que la nature des problèmes de l'être humain ont une composante spirituelle, je dis pas religieuse, mais spirituelle. Mais je pense que il me semble que le raccourci du médicament, quand c'en est un, est plus approprié que la scène analytique. Enfin, je le trouve plus prometteur le fait de temporiser, le fait de s'affronter à travers une certaine analgésie à ces problèmes, que l'expectative folle de s'imaginer que quelqu'un qui en a écouté deux autres avant de votre calibre et deux autres après, je trouve ça particulièrement grotesque.
Et puis aussi, il y a l'idée chez toi que l'inconscient, parfois, est juste bête, est simplement un peu con. Hein,
Oui, mais c'est ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire que je pense que la nature psychique d'un problème, enfin, c'est comme le diabète de type 2, où on peut faire toutes sortes de lectures, de constructions interprétatives, mais en fait, je pense que l'appareil psychique d'un homme moderne est déphasé par rapport aux stimuli, par rapport à l'ensemble des contraintes et des stress qui sont son quotidien. C'est-à-dire que je pense que nous sommes déphasés, que nous souffrons en raison du fait que nous avons tellement modifié le contexte social, qui est naturel que l'on pâtisse de cette situation-là, et que ça n'a rien à voir avec la non-résolution de l'Édipe ou quelque espèce de théorie de cette nature-là. Je pense que j'allais dire, il y a une composante physiologique qui m'apparaît prépondérante sur toute autre espèce de considération.
Mais comme tout à coup, tu deviens très sérieux en parlant de ça, et je te taquine un peu, mais ton livre est fait de moments très sérieux et de moments très, très cavaliers, très amusants, très primesautiers, méchants. Mais il y a toujours une rupture de ton dans ce que tu fais.
Mais en fait, la mélancolie, c'est ça. En fait, c'est la rupture de ton qui fascine le mélancolique. C'est le fait qu'il a pu être heureux avec une femme d'une manière très intense et devenir très malheureux après. C'est le fait que l'enfant qui commence à marcher se tient debout et émerveille ses parents, mais que 2 minutes après, il se casse la figure. C'est ça qui est intolérable, c'est ça qui est la difficulté de vivre même, en fait. C'est le fait que les tons, que la vie change continuellement, que les formes émotives dans lesquelles nous sommes plongés et qui nous captivent complètement d'un état à un autre, fassent de nous des pantins, littéralement, de ces variations. C'est ce que le fragment permet aussi, c'est-à-dire à la fois le rire gras et le rire jaune. Deux tonalités de rire différentes.
Alors, par moment, dans les moments les plus méchants de ton livre,
C'est pas méchant, enfin, c'est un peu. C'est de l'acédie acidulée.
Bon, dans les moments les moins tendres de ton
C'est
livre,
ça,
il y a l'université en prend pour son rhume, les enseignants, l'édition au Québec, et peut-être plus ça avance, je trouve qu'il y a une accélération dans le livre. Vraiment, tu te mets de plus en plus en colère contre le Québec. Hein, dans certains de tes autres livres, c'était déjà présent, mais là, il y a des choses qui vraiment t'agacent, qui t'exaspèrent. Alors, peux-tu nous dire un peu de quoi est fait cet agacement face au.
Ben, c'est un agacement qui tient à ma propre impuissance. Je ne suis que ce que le seul à blâmer pour cette j'en fais ma faute personnelle. C'est-à-dire je ne me console pas de ne pas d'avoir quitté le Québec à un moment où j'aurais pu le faire. Je ne me console pas de ne pas parler parfaitement anglais pour pouvoir enseigner en anglais, par exemple. C'est mêlé à un sentiment de rage contre moi-même, parce que, il faut bien dire, nous habitons un pays qui est un très vieux pays, c'est-à-dire le fait qu'il ait 400 ans semble court dans l'histoire, mais en fait, dans l'état actuel où me semble être le Québec, nous sommes dans un très vieux pays, c'est-à-dire un pays qui s'apprête à disparaître démographiquement, en tout cas dont les formes traditionnelles. Je sais bien que les Nguyen vont remplacer les Tremblay, que ce ne sera pas une mauvaise chose nécessairement, mais enfin, moi, ça ne me console pas, en fait. Moi, à vrai dire, ça me chagrine énormément. Et cette situation, pour moi, je la trouve dramatique, je la trouve historiquement dramatique. Le fait qu'on n'ait pas su dans les années 70, alors que d'une part, l'affirmation nationale atteignait un certain zénith, si j'ose dire, ou que l'on ait eu un État moderne capable de modélisation informatique, capable de prévoir démographiquement ce qui se préparait pour nous, Québécois, et qu'on n'ait rien fait pour faire face à cet État, à cet état de fait, je trouve ça inconcevable, en fait. Je trouve ça.
Ta mélancolie viendrait de là aussi. Ta mélancolie, ce ne serait pas seulement ton histoire, ce serait l'histoire aussi.
Ben, ce serait le fait d'appartenir à un peuple qui consent à se laisser disparaître. C'est assez pour rendre mélancolique, ça. C'est-à-dire de voir qu'aucune résistance n'est opposée alors qu'on avait tous les moyens d'un État suffisamment développé pour s'objecter à notre propre disparition. C'est comme si on formait les propres anthropologues de notre dissipation collective, là, en fait. Et ça a quelque chose de choquant. Mais certains me diraient, ben non, rien ne va arriver puisque l'immigration va nous apporter la pérennité. Je ne suis pas sûr de ça.
Et pour toi, donc il y a un, comment dire, il y a quelque chose qui est irrévocable. Est-ce qu'il y a un chemin qui est déjà tout tracé, ou est-ce qu'il y a encore des rêves,
C'est-à-dire
des
que
sursauts de...
pour moi, le chemin est tracé, c'est-à-dire que je m'achemine actuariellement vers la prise de retraite dans quelques années, et donc, bien que je ne sois pas si vieux que ça, mais enfin, pour moi, j'allais dire, les jeux sont faits, d'une certaine manière, pour ma fille, et c'est là où il y a quelque chose de l'ordre de la tristesse, c'est-à-dire qu'il faudra bien m'en séparer si je veux pas qu'elle finisse comme moi, c'est-à-dire dans l'espace restreint de la société québécoise. Si on aspire pour ses enfants quelque chose de mieux, ce qui est le cas de la plupart des parents, que sa propre condition, il faut bien envisager le fait que la société québécoise dans les 50 prochaines années sera pas la plus dynamique, la plus créatrice. Je sais bien que le Cirque du Soleil, que Céline Dion sont une source de sont un baume, une consolation pour plusieurs, mais pas pour moi.
Et le rêve national qui a passé par la littérature, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que il y aurait des écrits, peut-être les tiens, ceux de quelqu'un qui pourrait sauver le Québec? C'était complètement une histoire que l'on se racontait, qui finalement fait partie de notre...
C'est-à-dire que quand on regarde la littérature québécoise, on ne peut pas s'empêcher on ne peut pas s'empêcher de constater que nous sommes dans les limbes de l'histoire, en fait. C'est une écriture limbique, si j'ose dire. Béraquin n'a pas été accueilli de manière particulièrement favorable en France. On n'a pas reconnu son génie, qui pour moi me semble indiscutable.
Il est toujours pas reconnu en France, on ne le lit
Non,
pas.
ce sont, on ne le lit pas. Nous sommes contraints là, dans nos lettres québécoises. C'est-à-dire que c'est un peu normal, puisque historiquement, on ne s'est pas donné les moyens de s'affranchir de notre État colonial. Alors, donc, c'est pas. Je pense que la conquête a fait son travail. C'est-à-dire, nous sommes assimilés. Je sais que ça semble une position désuète, mais pour moi, ça ne fait pas de doute. C'est-à-dire,
Donc, c'est la littérature, c'est celle de l'assimilation.
exactement, c'est ça, c'est ça. C'est essentiellement des moments. La littérature, elle a quelque chose de touchant, parce que c'est comme la vitesse. Nous sommes un grand carré français en Amérique. En fait, c'est rien de plus, rien de moins non plus, mais rien de plus.
Alors, pourquoi continuer à publier au Québec?
Ben ça, c'est une valeur purement, j'allais dire, purement égotiste, si j'ose dire. C'est pour ma fille, c'est pour que, quand je serai très loin, très proche, c'est selon, elle puisse avoir accès à un souvenir, à des lettres. Enfin, c'est une lettre envoyée à tous mes livres sont des lettres envoyées à ma fille quand elle sera plus grande. Je n'ai pas conçu autrement mes livres que comme ça. C'est-à-dire dans la tristesse j'aurais souhaité que mon père m'écrive, alors que je sais qu'il a fait métier d'écriture, qu'il puisse me laisser un livre de lui. C'est d'autres choses, bien sûr, mais j'aurais aimé pouvoir lire en son absence. J'aurais aimé pouvoir être consolé à travers ça.
Pourquoi tu penses qu'il n'a pas écrit, ton père, ce livre?
Parce que, je ne sais pas, une sorte de pudeur. Une sorte de pudeur, sans doute. Il aimait beaucoup la poésie, il était touché par l'œuvre de Gaston Biron en particulier. Il était très ouvert à la littérature, mais en fait, je ne sais pas.
En fait, le fait qu'il t'ait pas donné ça, c'est ce qui a été générateur de tes luttes, tu crois?
D'une certaine manière, absolument. Absolument.
Absolument.
Oui, absolument. Le fait de je ne veux pas reproduire.
Alors aujourd'hui, à l'émission Rêver pour moi, j'accueille Christian Saint-Germain. Christian Saint-Germain a écrit un livre qui s'intitule Mélancolie Inc., INK, qui vient d'être publié chez Bayard en 2007. Quand je t'ai invité, Christian, tu semblais très réticent à venir parce que tu m'as vraiment fait comprendre que tu ne rêvais pas, que tu n'avais guère envie de parler de tes rêves et que il semblait que mon invitation ressemblait à celle que je pourrais faire à un végétarien dans un steakhouse et que tu n'avais rien à faire là. Néanmoins, en lisant ton livre,